France Inter.
Journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et de 3, la troisième réforme de l'assurance chômage en 5 ans est donc lancée. Objectif plein emploi et renflouement des caisses de l'État, la durée d'indemnisation des chômeurs dans le viseur de Gabriel Attal. Il demande aux syndicats et aux patronats de se remettre à négocier. Réaction dans un instant. Jamais sans mon écran, le téléphone sous les yeux, dans les mains, toujours avec soi. On interroge notre addiction au smartphone aujourd'hui sur Inter. Témoignage de collégiens dans un instant avant l'intervention de vos invités à 8h20, Nicolas.
Oui, bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Avec qui allons-nous réfléchir à cette question des écrans?
Oui, sommes-nous tous accros aux écrans? Vous, oui, Nicolas, mais oui. Les autres, comment on fait pour se désintoxiquer? Eh bien voilà nos invités. Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences, c'est l'un des experts de la commission écran réunie par Emmanuel Macron. On sera aussi avec Justine Rist, la directrice générale de YouTube France, et avec Romain Salzmann, qui dirige, vous savez, cette appli d'origine française qui cartonne dans le monde chez les jeunes. Biril.
Et vos questions 01 45 24 7000.
Et d'ici là, un nouveau vaccin bientôt obligatoire contre toutes les méningites en recrudescence depuis la fin du Covid. Des vérifications au Vernet. 8 mois après la disparition du petit Émile, la justice organise une mise en situation dans le hameau des Alpes de Haute-Provence. L'accord du Mercosur entre l'Europe et l'Amérique du Sud, il est mauvais, il faut l'enterrer et en bâtir un autre, dit Emmanuel Macron au Brésil. Nous y sommes. Et puis Booba, comédien, co-scénariste et producteur d'une série sur Amazon, Polar de quartier plutôt réussi, nous dira Alexandra Hakoun.
France Inter.
Trois fois sur le métier, remettez votre ouvrage, ajoutez quelquefois et souvent effacer le conseil de Boileau. S'applique donc de nouveau à l'assurance chômage depuis 2021. Il faut travailler plus pour être indemnisé 6 mois sur 2 ans. Depuis le 1er février 2023, c'est la durée d'indemnisation qui a baissé d'un quart. On attend un accord syndicat-patronat censé durcir les règles pour les seniors. Et voilà qu'une nouvelle négociation est demandée pour une troisième réforme globale. Gabriel Attal remet l'ouvrage sur le métier. C'était hier soir sur TF1.
Notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qu'il y ait davantage de Français qui travaillent. Et je le dis ici, mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. C'est ça le seul objectif qui est le nôtre. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. C'est la première piste. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. On peut imaginer soit de dire il faut travailler davantage sur les 24 derniers mois, donc ça c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage, combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes, mais on va laisser les partenaires sociaux travailler.
Ne pas imposer pour l'instant et laisser faire les syndicats et le patronat, toujours en pleine négociation sur le chômage des seniors. Le Premier ministre leur laisse jusqu'à l'été pour tout revoir encore une fois, dans l'idée d'appliquer la réforme à l'automne. Et comme on pouvait s'y attendre, Maxime Debs, l'accueil côté syndicat est glacial. Pas question de réduire de nouveau la durée d'indemnisation des chômeurs.
Réduire encore la durée de 18 mois maximum aujourd'hui à 12 mois demain. Gabriel Attal n'y voit pas d'inconvénient quand Denis Gravouille à la CGT ne voit rien d'étonnant.
C'est ce qu'a toujours voulu faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire en gros faire comme ce qui s'était fait en Allemagne dans les années 2000 sous Schröder, c'est-à-dire réduire les droits à 1 an.
Tout ça aurait pour effet de pousser à la reprise d'un emploi.
Mais que veut Gabriel Attal?
François Omril à la CFE-CGC.
Il veut qu'un ingénieur de 52 ans accepte, parce qu'il n'aura pas d'autre choix, un emploi de plongeur dans un restaurant, de gardien de parking. C'est ça qu'il veut pour la France?
Les chômeurs, une nouvelle fois, à pointer du doigt, dénonce surtout les syndicats.
Sans répondre sur les impôts pour les plus riches, les impôts sur les super profits des entreprises, on va réouvrir les négociations en assurance chômage alors qu'elles viennent de se finir depuis à peine 4 mois.
Même le patronat reconnaît à moitié que ça commence à faire. Jean-Eudes Duménil à la CPME.
C'est vrai qu'on a de temps en temps l'impression que l'encre est à peine sèche de la réforme précédente, qu'il faut déjà recommencer. Mais il faut faire en sorte d'inciter davantage à la reprise d'un emploi.
L'erreur pour ce représentant patronal serait en revanche de s'attaquer au montant d'indemnisation. Piste également évoquée par Gabriel Attal, ce serait une mauvaise idée, dit-il, car les chômeurs ne décident pas de leur chômage et que, tout simplement, ils doivent pouvoir continuer à vivre.
Et faut-il plus d'impôts pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État? Le débat agite la majorité. Hier soir, le Premier ministre a fermé la porte, à l'exception, pourquoi pas, des super profits des entreprises. Voilà pour les rentrées d'argent. Aujourd'hui, on parlera coupe dans les budgets à Bercy. Bruno Le Maire réunit des élus de la majorité et de l'opposition pour trouver de nouvelles économies à faire dans le but de ramener le déficit public à 3% en 2027.
Il est 8h06, des êtres qui vivent, les yeux rivés sur un petit rectangle lumineux.
Voilà sans doute comment nous décrirait un anthropologue venu d'une autre planète ou tout simplement du passé. Depuis 2017 et la présentation du premier iPhone d'Apple, que sommes-nous devenus ? Incapables de nous passer de cet outil merveilleux et terrifiant, le smartphone, qui a changé nos vies. On va en parler toute la journée sur France Inter. Les ados d'aujourd'hui sont nés avec. 83% des enfants de 12 ans ont le leur. Et message aux parents qui ont installé le contrôle parental, méfiez-vous. Vous êtes peut-être en train de vous faire avoir. Trucs et astuces de collégiens au micro de Victor Vasseur.
Est-ce que mes parents vont m'entendre ? Demande Maxine, 13 ans, avant de se lancer. On comprend vite sa question.
J'ai un temps d'écran hyper élevé. Et du coup, ma mère, elle a mis un nouveau temps d'écran, sauf qu'elle l'a pas mis correctement. Au lieu de demander plus de temps, il y a écrit ignorer la limite. Et je peux l'ignorer pendant une journée. Du coup, ça fait qu'au lieu d'avoir un temps d'écran de genre 45 minutes, je peux avoir un temps d'écran de 5 heures, genre.
Depuis quelques mois, Camille, en 4e, n'a plus besoin de réclamer à ses parents du temps en plus sur son téléphone.
Et en fait, sur mon ordinateur, il y avait aussi ma limite de temps. Et du coup, j'ai demandé à mon papa d'enlever ma limite de temps sur mon ordi. Et sauf qu'en fait, je savais pas que c'était connecté aussi à mon téléphone. Du coup, en fait, ça me l'a enlevé aussi sur mon téléphone. Mais j'essaye de faire pas beaucoup, mais là.
Samedi 23 mars, le téléphone indique 9h05.
Oui. C'est très beaucoup, même moi ça me choque.
Ces ados sont bien conscients du temps passé devant TikTok, Instagram et Snapchat.
Enfin, moi je sais que par exemple, si un jour j'ai TikTok, etc., je m'imposerai une propre limite pour être sûre de ne pas passer trop de temps dessus.
Moi je me suis mis j'ai mis 15 minutes pour voir ce que je fais et dès que je me dis, ah ouais, putain, ça fait vraiment 1h30 que je passe, là faut peut-être que j'arrête, que j'aille faire autre chose. Mais même moi, je me dis que des fois c'est beaucoup trop ce que je fais et je regrette après d'avoir fait ça parce que je sais que c'est pas bien pour notre cerveau, c'est nocif et tout.
Ce contrôle parental n'est pas obligatoire, mais à partir du mois de juillet, il sera installé par défaut sur tous les smartphones et toutes les consoles de jeux vendus en France.
Victor Vasseur, tout sacro, comment dompter nos écrans ? Il n'y a pas de vaccin contre l'addiction au smartphone, on en reparle tout au long de la journée sur Inter.
Mais un vaccin contre la méningite.
Il est déjà obligatoire pour les nourrissons, 2 injections contre une souche de la bactérie, ça n'est plus suffisant. Pour la Haute Autorité de Santé, elle recommande la protection contre d'autres familles de méningocoques potentiellement plus virulentes, avec une nouvelle obligation vaccinale. Le gouvernement devrait suivre son avis, ce qui relève du bon sens pour le professeur Daniel Floret, pédiatre et ancien vice-président de la commission vaccination à la Haute Autorité.
À l'occasion de la pandémie de Covid et des mesures barrières, ces méningocoques ont pratiquement disparu, ne circulaient pratiquement plus. Mais lorsqu'on a relâché les mesures barrières, l'incidence de ces méningocoques a explosé, avec des méningocoques qui sont plus agressifs que les méningocoques contre lesquels on traitait jusqu'à présent. C'est une vraie préoccupation parce que ces méningocoques entraînent des maladies graves qui sont la méningite à méningocoque, relativement accessible à un traitement antibiotique, mais quand même avec la possibilité de quelques décès et des séquelles, et surtout la septicémie à méningocoque, qu'on appelle en France le purpura fulminans, qui est une maladie extrêmement grave et qui peut tuer un enfant ou un adulte même en quelques heures.
Le professeur Floret avec Sébastien Sabiron, la Haute Autorité de Santé, recommande également un rappel vaccinal chez les 11-14 ans contre toutes les souches de méningocoque. L'État porte plainte pour dénonciation calomnieuse et se retourne contre l'élève qui a accusé son proviseur de l'avoir frappé car elle refusait d'enlever le voile. Annonce du Premier ministre hier soir devant l'émoi qu'a suscité le départ à la retraite anticipée du proviseur du lycée parisien, menacé de mort depuis un mois. Autre établissement, même problématique, on apprend que 3 mineurs seront jugés en mai pour des menaces de mort sur Internet contre le proviseur d'un lycée d'Ivry-sur-Seine, accusé d'avoir voulu retirer de force l'abaya d'une élève. Quelqu'un a-t-il menti sur son emploi du temps le jour de la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence? C'était le 8 juillet dernier, en fin d'après-midi, dans le hameau du Haut-Vernay, 25 habitants, où l'enfant de 2 ans et demi venait d'arriver dans la résidence secondaire de ses grands-parents. Depuis, plus aucune trace de lui. Une mise en situation est donc organisée sur place à partir de 9h. Ariane Grissel pour vérifier la cohérence des récits fournis depuis.
Pendant une bonne partie de la journée, dans ce hameau à 1200 mètres d'altitude, chacun sera amené à refaire les activités. activités et déplacements qu'il était en train de faire le 8 juillet au moment de la disparition d'Émile. 17 personnes sont convoquées, famille du petit garçon, habitants du village ou témoins de passage ce jour-là. Une mise en situation sous l'œil des deux juges d'instruction chargés du dossier et enregistrée par les drones de la gendarmerie. Depuis cet été, les enquêteurs ont entendu des dizaines de personnes, analysé aussi la téléphonie pour voir notamment quel portable a borné à quel endroit. Il s'agira donc aujourd'hui de mettre tous ces éléments à l'épreuve du réel. Vérifier par exemple les déclarations de ces deux témoins qui disent avoir vu Émile peu avant sa disparition dans une rue du village. Sont-elles plausibles, cohérentes? Ce n'est pas une reconstitution puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé ce 8 juillet en fin d'après-midi, mais une tentative de relever quelque chose de confus, voire suspect dans un récit. Un fil à tirer dans cette enquête dans laquelle il n'y a encore eu aucune garde à vue.
Ariane Grissel, des salades en sachet et aux pesticides, 60 millions de consommateurs alertent sur 26 références de mâches et de laitues analysées, 21 étaient contaminées, parfois par des molécules cancérogènes ou toxiques pour la reproduction. Les quantités retrouvées restent dans les limites de la réglementation, mais l'association s'interroge sur un possible effet cocktail. Des pesticides interdits en Europe, des conditions de production agricole loin de nos standards. Finissons-en avec le Mercosur, dit Emmanuel Macron en voyage au Brésil. Le président ne veut plus de cet accord commercial avec l'Amérique du Sud, toujours en négociation, mais caduque selon lui. Il faudrait tout réécrire, il l'a dit devant le patronat brésilien hier soir à Sao Paulo. Et tant pis pour les expatriés français qui l'attendaient de pied ferme, Maxence Lambrecq.
Avant de rejoindre le lycée français, Emmanuel Macron a eu ces mots.
Dans cet accord, il n'y a rien qui prend en compte le sujet de la biodiversité et du climat. Rien. Finissons-en avec le Mercosur d'il y a 20 ans.
Il veut repartir d'une page blanche, c'est pour Alain un enterrement déguisé.
On ne se rend pas compte des possibilités de ce pays et des ressources dont il dispose. Et finalement, nous avons la plus grosse frontière terrestre que nous avons, c'est le Brésil. C'est dommage, c'est dommage.
Le Brésil, champion des pesticides, résumé trop rapide pour Éléonore.
Il y a certaines filières qui sont déjà bien avancées sur ces sujets-là. Il y a des choses qui évoluent en termes de, par exemple, de traçabilité dans le café, dans la viande également, où il y a de plus en plus de gros acteurs industriels brésiliens qui eux-mêmes investissent là-dedans. En fait, ils savent que c'est bon pour eux aussi et c'est dans notre intérêt aussi que cet accord se fasse parce qu'on parle de l'agronégoce, il n'y a pas que l'agronégoce.
Si l'accord s'appliquait, nous gagnerions d'un point de vue commercial, assure un proche du président. Ici, Evelyne promeut les fromages français.
Cet accord, il est favorable parce que nous allons exporter plus de fromages français ici au Brésil. Il y a des difficultés de transport et des logistiques et des dédouanements.
Plus rien ne bougera avant les européennes, les deux présidents. Le président devrait balayer ce sujet tout à l'heure. Le français se méfie de la colère agricole et de son relais Le Pen. Le brésilien de l'agro-industrie et de son relais Bolsonaro.
Maxence Lambrecq à São Paulo pour France Inter. Fin de voyage plus politique aujourd'hui. Emmanuel Macron va parler des grands enjeux internationaux avec Lula, le président brésilien qui ne prend pas parti dans la guerre en Ukraine et qui accuse Israël de génocide à Gaza. Les Lyonnaises en demi-finale de la Ligue des Champions, qualifiées hier soir en battant le Benfica 4 buts à 1 en match retour. Leurs adversaires des demi seront soit les parisiennes du PSG, soit les suédoises de Haken qui s'affrontent ce soir après une victoire du PSG en match aller. On pensait ne jamais le voir sur un écran de cinéma en France. On s'était trompé. Le dernier film de Roman Polanski, The Place, va sortir le 15 mai. Il avait reçu un accueil glacial à la dernière Mostra de Venise. Il a trouvé un distributeur. C'est une petite société spécialisée dans le cinéma de patrimoine qui vient d'en acquérir les droits. La société Swashbuckler Film, dont le fondateur Corinne Pellissier n'a visiblement pas froid aux yeux.
Sébastien Tivéral avoue son détour et ce n'est pas banal. Il n'a pas vu le film. Personne n'en voulait. Alors pour lui, admirateur de longue date du cinéma de Roman Polanski, il y avait peut-être un coup à jouer.
Moi, j'ai pas vu le film, non, non. Bien sûr que c'est cocasse. Personne ne voulait, donc ça m'a pas coûté cher. Hein. C'est quand même un des derniers grands génies de l'histoire du cinéma. Je connais pas beaucoup de Polanski, ils sont pas bons. Ce que je supportais pas en tant que distributeur, c'est qu'un film d'un grand cinéaste, encore vivant, encore là, puisse passer à la trappe.
Le distributeur le sait, le chemin sera long et difficile jusqu'au 15 mai. Il y a d'abord la qualité du film, tourné dans un hôtel de luxe en Suisse, qui laisse à désirer. Et puis surtout, le nom de Polanski, symbole aujourd'hui de l'impunité des violences faites aux femmes, qui fait fuir le public et rend frileux les exploitants de cinéma.
Moi, je suis certain qu'il y a des salles qui se disent aujourd'hui « Oh, on espère que Sébastien ne va pas nous envoyer un mail en nous proposant le palace. » Parce qu'on ne va pas savoir quoi lui répondre. On veut le film, et en même temps, on est gêné. Et je comprends que les salles soient dans un dilemme. Moi, je ne le suis pas du tout.
Pour mémoire, seulement 2 cinémas en France, l'été dernier, avaient accepté de diffuser le documentaire « Promenade à Cracovie » autour de l'enfance du cinéaste dans le ghetto juif. C'est peu, mais Sébastien Tivéra s'en contenterait. Son moment de gloire est déjà là. Une nouveauté, enfin, dans son catalogue. Pas une réédition, c'est la première fois.
Corinne Pellissier, du ciné à la série. Voici un autre personnage sulfureux dans un autre registre. C'est Booba, rappeur, homme d'affaires et désormais comédien. À l'affiche d'Ourika sur Prime Video à partir d'aujourd'hui, un thriller sur les banlieues et le trafic de drogue. Sensation de la dernière édition du festival Sérimania, car le rappeur est aussi à l'origine de la série, Alexandra Hacoun.
Connu pour ses clashs et son égo hypertrophié, le rappeur aurait pu s'offrir le premier rôle. C'est loin d'être le cas. Il faut même attendre la fin du premier épisode pour le voir apparaître. Même au générique, sa présence est discrète. Directeur artistique, co-scénariste, producteur. Encore faut-il connaître son vrai nom, Eliyafa, pour le repérer. C'est donc sans démonstration de force de la part de Booba qu'on entre dans cette histoire qui nous ramène en 2005, au moment des émeutes dans les banlieues parisiennes, des quartiers où la famille Djebli règne en maître sur le trafic de cannabis, mais une descente des stupes va obliger Driss, le plus jeune frère, à prendre la tête du business, lui qui, à la façon d'un Michael Corleone au début du Parrain, se rêvait un autre avenir.
Tu vas te faire entretenir ?
Non, finir mes études et ensuite je vais me trouver un bon taf dans une banque d'affaires.
Et puis il y a William, jeune flic ambitieux. Ces deux-là vont connaître une ascension fulgurante dans leur milieu respectif, en s'appuyant sur une drôle d'alliance.
C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie, toi ?
Maintenant, on est quitte.
Oh non, on n'est pas quitte.
Ça donne un polar musclé, certes assez classique, mais qui jamais ne sonne faux. Il faut dire que Booba a su s'entourer. Clément Godard, qui signe avec lui la série, a passé 20 ans dans la police, au stup. Il y a aussi Marine Francouche, showrunneuse des dernières saisons d'Engrenage. Ourika, sous leur plume, multiplie les clins d'œil cinématographiques avec une dimension très romanesque, totalement assumée.
Voilà, 7 épisodes à voir à partir d'aujourd'hui sur Prime Video.
Merci Florence Paracuellos. Le chanteur du groupe Feu Chatterton publie aujourd'hui un recueil dans lequel il revient sur les consultations poétiques qu'il a données l'an dernier à Paris. Arthur Teboul est l'invité de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et un temps très agité, Marie-Pierre, sur la moitié nord.
Oui, dès ce matin, à cause de cette tempête Nelson qui vient d'Irlande et qui tournicote sur elle-même et engendrerait des vents violents en remontant vers la mer du Nord, avec 6 départements toujours en vigilance orange, du Finistère à la Charente-Maritime, des rafales soufflant jusqu'à 130 km/h près des côtes, 110 à l'intérieur des terres, mais sur les autres régions au nord de la Loire, ça va souffler fort, 70 km/h comme en Ile-de-France. Ce matin, on a une bande un petit peu plus calme, avec un peu d'éclaircie du nord en descendant vers les Cévennes et sur le sud-ouest. Mais en revanche, sur les régions de l'est, on retrouve la perturbation pluvieuse de l'Alsace à la région PACA, à la Corse avec de la neige, du Jura aux Alpes, où il y a un fort risque d'avalanche, et toujours le Var en vigilance orange, vague submersion, et il fait frais ce matin.
Le temps agité, Marie-Pierre, ouais, se généralise au nord de la Loire cet après-midi.
Et oui, et au programme, régime d'averse, grésil, orage, toujours ses vents tempétueux, et même si une éclaircie arrive, une giboulée n'est jamais loin. Sur le sud-ouest, les Pyrénées, le ciel sera chargé avec quelques averses et de la neige sur l'ouest du relief. En revanche, ce sera de nouveau bien ensoleillé sur l'est des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Mais encore, ça restera agité sous des valeurs un peu fraîches pour la saison. 11 à Brest, 12 à Paris, 16 à Lyon, mais 20 à Bastia, car c'est le début d'un coup de sirocco attendu demain. Et on surveillera demain l'Auvergne, Rhône-Alpes. Attention aux causes des vents violents attendus. Puis sur pour ce week-end, Pascal, Nicolas, ce ne sera pas folichon, ceci dit, un vrai temps printanier, c'est-à-dire très capricieux et à surveiller peut-être même un épisode méditerranéen. Faudra guetter une éclaircie pour la chasse aux œufs dans le jardin.
Merci Marie-Pierre, il est 8h19.